Il y a un autre aspect, une autre question. Vous parliez des conséquences de cette guerre. Est-ce que cette guerre en Ukraine va relancer la course à l'armement nucléaire? Les Russes, en tout cas, ne veulent plus discuter avec les Américains d'une éventuelle réduction de leur arsenal nucléaire. C'est même tout le contraire. Discours aujourd'hui du ministre de la Défense, Shoigu. Sa priorité, vous allez l'entendre, pour 2023, construire de nouvelles infrastructures autour des armes nucléaires. Écoutez.
C'est gay.
Lors de l'élaboration de la liste des grands chantiers pour 2023, une attention particulière sera accordée aux constructions dans l'intérêt des forces nucléaires stratégiques. Au cours de l'opération militaire spéciale en Ukraine, de nouvelles méthodes de combat sont testées. Il s'agit tout d'abord de l'utilisation de systèmes de reconnaissance et de tirs de frappe, y compris des drones, ainsi que d'armes modernes et avancées.
Toujours Guillaume Ancel, remettre la menace nucléaire, comme ça, au détour d'une phrase, au détour d'un discours, oui, la remettre au centre du débat.
Alors, d'abord, je voudrais remarquer une chose, les images, c'est très intéressant. Je n'ai jamais vu une réunion d'état-major ou de travail de la défense sur laquelle on projette des images de communication derrière. Donc, c'est clairement des images qui sont faites pour l'opinion publique et pour leur dire...
Et éventuellement pour nous.
Vous avez vu, on en a partout, hein, des armes nucléaires, on va vous faire un bombardier, un sous-marin, etc. À un moment où la Russie est au bord de la ruine et de toute façon, à cause des sanctions occidentales, n'arrive plus à se procurer les éléments sensibles. Parce que pour les munitions, pour les armements les plus modernes, c'est surtout le digital et le numérique aujourd'hui qui est le plus important. On sait que l'industrie d'armement russe, qui fut très puissante, est aujourd'hui en quasi débâcle à cause de ça. Donc, c'est vraiment un discours à contre-courant de la réalité. Et moi, je présage plutôt qu'avec la chute du régime Poutine, on aura sans doute une réflexion à avoir sur l'état de l'arsenal russe. Parce que quand on voit l'état de l'armée russe, on se dit que son arsenal nucléaire est sans doute dans un état déliquescence avancée qui serait grand temps qu'on commence à aller l'inspecter. 6000 têtes nucléaires, des lanceurs qui ont beaucoup été utilisés contre l'Ukraine. Qu'est-ce qui reste de cet arsenal nucléaire et dans quel état est-il,
colonel?
Oui, alors ça c'est une vraie question. C'est-à-dire que l'arsenal nucléaire russe est pléthorique. Plus de 6000 têtes nucléaires. Bon, il y a 2000 qui sont opérationnelles, mais 6000 en stock, enfin en total, pour un pays qui a le PIB de l'Italie. C'est-à-dire très concrètement, la France, si on fait le total de ce que nous dépensons pour notre force frappe nucléaire, tout compris le nombre d'ogives nucléaires que nous avons, 290 à peu près, ça fait entre 100 et 200 millions d'euros par an. La France dépense 100 à 200 millions d'euros chaque année pour chacune de ses têtes nucléaires. Aux États-Unis,
pour chacune des têtes.
Oui, on est tout compris. Hein,
les
gens qui sont qui les utilisent, etc. Éventuellement. côté.
Merci d'avoir précisé. Merci
d'avoir précisé.
Pas forcément. Enfin, quand tu les utilises tous les jours, la dissuasion, ça marche tous les jours.
Oui.
Mais aux États-Unis, on est sur les mêmes proportions. Si on faisait le même rapport pour les 6 000 têtes nucléaires en Russie, ça, on serait à 60 milliards d'euros de dépenses, entre 60 et 120 milliards d'euros de dépenses annuelles uniquement pour avoir le même standard que nous.
Et en réalité, ils dépensent combien nucléaire.
Le budget officiel de la défense, c'est 65 milliards d'euros total, tout compris. Bon, il est sous-estimé, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même standard, on va dire, de qualité autour de l'arsenal nucléaire. Donc, concrètement, il y a certainement, évidemment, beaucoup qui ne fonctionneraient pas ou mal, et ce qui pose effectivement la question de l'état véritable de cet arsenal.
Mais cette déclaration de Shoigu, elle inquiète, comme ça inquiète depuis le début de la guerre, mais elle intervient dans un contexte particulier, puisque cette semaine, il devait y avoir, enfin, parce qu'elles ont été suspendues depuis le Covid, les discussions entre les États-Unis et la Russie sur le désarmement nucléaire, sur le traité de désarmement nucléaire. New Start, exactement. Donc, elles ont été suspendues, pas en raison de la guerre en Ukraine, mais en raison du Covid depuis longtemps. Puis, elles devaient reprendre mardi jusqu'à lundi. Ça paraît étonnant qu'elles n'étaient pas annulées avant.
Disons qu'en termes de calendrier...
Voilà. Mais c'est étonnant, mais elles étaient toujours prévues. Jusqu'au bout, ils continuent à discuter. C'était pas Biden et Poutine qui allaient s'y rendre. Mais au niveau technique, il y a plein de réunions qui continuent à avoir lieu, à un niveau moins élevé, évidemment, qu'au niveau présidentiel. Et à la dernière minute, ça devait avoir lieu au Caire à partir de mardi jusqu'à lundi prochain, ça a été annulé. Donc effectivement,
quel étonnement.
Le lendemain, il y a des déclarations de ce type.
Ça a été signé. C'est normalement le traité New Start, toujours valable jusqu'en 2026.
Donc, prolongé par Poutine.
Voilà,
qui était officiellement prolongé par Poutine. Qui implique que des experts américains devraient aller voir comment se portent les ogives nucléaires russes.
Voilà le problème.
Étonnamment, il n'y a pas d'Henri qu'on vient de visiter.
Quelle surprise. On est vraiment étonné qu'en plein conflit en Ukraine, dont on se demande quelle sera l'issue, on aille discuter par ailleurs de l'état de la plomberie qui alimente le nucléaire, alors qu'en plus, les Russes nous remettent la carte nucléaire à peu près tous les 15 jours sur la table. Donc ce qui se passe là, à mon avis, juste un dommage collatéral assez secondaire du fait que la Russie est en guerre. Et donc, il n'est pas question d'aller discuter d'un traité de paix avec un pays en guerre. Pour moi, il n'y a aucune conséquence et aucun message à travers le fait que cette discussion n'ait pas eu lieu. C'était juste une erreur d'agenda. Et c'est juste étonnant que dès le départ, on n'ait pas dit, on va attendre que la situation
soit stabilisée. Le dialogue est toujours maintenu.
On en parlait souvent avec vous, Ulysse. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un dialogue à haut niveau entre Washington et la Russie sur le nucléaire en général. Et il y a toujours des contacts. C'est-à-dire que même s'il y a eu l'annulation de ces négociations, ça ne veut pas dire forcément que les deux pays à très haut niveau ne se parlent plus de ces sujets-là, j'imagine.
C'est autre chose, et ça, c'est un phénomène qui a été mis en place essentiellement d'ailleurs à cause d'accidents qui ont failli avoir lieu après la Deuxième Guerre mondiale, qui fait que les grands états-majors et je dirais surtout ceux qui disposent d'armes nucléaires se sont toujours parlé. Pourquoi ? Parce que ce qui serait terrible, c'est qu'une erreur provoque une arme nucléaire. Donc, une guerre nucléaire, pardon. On l'a très bien vu quand il y a eu les explosions en Pologne, qu'on est venu commenter sur ce plateau ici, c'est que immédiatement les états-majors se sont parlé, parce qu'il n'était pas question de laisser enclencher une escalade simplement parce qu'il y avait un truc mal interprété sur le terrain. Donc ces contacts existent en permanence. Même avec notre ennemi le plus mortel, on ira continuer à discuter pour éviter de se battre en aveugle et de se laisser embarquer dans une escalade. Mais il y a une très grosse différence entre un contact opérationnel du plus haut niveau et puis le fait de discuter des modalités de l'application d'un traité de paix ou de désarmement nucléaire, ce qui ne relève pas du tout de la même temporalité, à mon avis.
Ulysse.
D'abord, je voudrais rappeler que ce sont les Russes qui ont annulé cette rencontre au dernier moment. Et ils l'ont annulé, et voilà cette mise en scène, cette réunion de l'état-major des armées russes avec le ministre de la Défense. Moi, je le vois quand même comme une forme d'affirmation de leur volonté de continuer la guerre, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix pour l'Ukraine. Et je sens pas du tout la chute du régime venir. Il peut y avoir des surprises. On peut se réveiller demain matin avec un coup d'État à Moscou. Mais franchement, quand on a cette démonstration de force qui est destinée aux médias, qui est destinée aussi aux Russes, mais qui est un message aussi aux Américains pour dire attention, nous avons toujours l'arme nucléaire et on va continuer à la développer. C'est plus un message destiné à dire que la Russie n'a pas encore perdu la guerre. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les Américains. Les Américains disent très clairement que dans l'état actuel des moyens ukrainiens, ils n'ont pas les moyens de forcer la défaite et d'obtenir une reddition de la Russie. Donc ça veut dire qu'on a d'un côté une armée russe qui a quand même fait des choix stratégiques récemment assez importants, qui va certainement se reconstituer, se repositionner, attendre peut-être une nouvelle mobilisation pour plus tard reprendre l'offensive. C'est ce qu'a dit d'ailleurs au cours de la réunion de l'OTAN qui avait lieu en Roumanie, Anthony Blinken, secrétaire d'État aux affaires étrangères. Donc attention aux annonces un peu précipitées de la fin de la Russie et de la défaite de Poutine.
Ça, c'est pour vous,
Guillaume Ancel. Surtout que la période hivernale, elle
est... Ça, c'est pour vous, Guillaume Ancel.
Les signes aujourd'hui nous montrent que la Russie, malgré les pertes qu'elle a subies, malgré la chute de Kherson, reste très combative et qu'elle va continuer à l'être et à détruire l'Ukraine jusque le moment où elle espère une capitulation qui ne viendra pas. Donc malheureusement, on risque d'avoir, et on le dit, ce n'est pas une nouveauté, une guerre très cruelle, très meurtrière et qui va durer.
Alors, puisque un missile a été tiré sur ma gauche, je vais essayer d'intercepter parce que j'ai longtemps travaillé sur les missiles, et avec simplement la distinction entre deux choses. D'un côté, on nous montre une arme nucléaire, ou plutôt la force nucléaire. Elle n'a aucun rapport avec les forces qui sont déployées pour mener la guerre. Parce que, contrairement à ce qu'on imagine, on ne peut pas faire de guerre nucléaire. Le nucléaire, c'est la fin de la guerre. Et donc, d'un côté, le fait que les Russes aient encore des milliers d'ogives nucléaires et une capacité à détruire plusieurs fois la surface du monde ne changera rien à la défaite militaire que leur imposent les Ukrainiens sur le terrain. Pourquoi ? Et ça, je pense que c'est à mettre au crédit de l'OTAN et des États-Unis. On a réussi à maintenir, pendant 9 mois, le niveau d'affrontement toujours en dessous de cette barrière nucléaire. Si on franchissait cet état, alors là, on ne sait pas où on irait, mais à mon avis, ce n'est plus une guerre. Mais tant qu'on reste en dessous, le fait que les autres agitent, les Russes agitent des images, parce que ce sont des images sur le nucléaire, ne changera rien à ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire le fait que l'armée russe se fait laminer progressivement par les forces ukrainiennes.
Mais à votre avis, pourquoi du coup ils agitent aussi souvent, aussi régulièrement cette menace nucléaire depuis le début du conflit entre Medvedev, parfois Shoigu, parfois Poutine lui-même? Quel est l'objectif si on sait qu'effectivement ça signe la fin de la guerre?
Alors j'ai peur que Ulysse ait raison. C'est d'abord une manifestation sur une chose.
Ça finit toujours comme ça, hein, de toute façon.
Ça sera toujours. Moi, je reste silencieux.
J'ai peur que Ulysse ait raison sur un point qui est essentiel, c'est que la Russie veut rappeler en permanence qu'elle est une grande puissance, alors que ce qu'on voit en Ukraine, c'est vraiment une puissance déclassée. Voilà. Et c'est sa manière à elle de dire, attendez, je perds en Ukraine, mais je reste une grande puissance qui ne parle d'ailleurs qu'aux États-Unis.
Ah oui.
Mais d'ailleurs, c'est parce qu'elle a cette arme nucléaire tout de même que les États-Unis ont surtout insisté pour ne surtout pas envoyer d'avions de chasse ou de missiles de longue portée, parce que c'est une puissance nucléaire. Ça aurait été un autre État voisin. Si les États-Unis avaient eu envie d'intervenir, ils l'auraient vu par le passé.
Quand ils ont envahi le Koweït, ça a déclenché une guerre, une coalition internationale, et on a fait la guerre à l'Irak, parce qu'elle avait commis un crime d'agression contre notre État.
Mais l'Irak aurait été une puissance nucléaire.
Voilà,
c'est les gens ont pris des décisions, la réunion de temps, là,
un peu différente.
Le secrétaire général d'envoyer des patriotes, là. Ils ont pris des décisions. Là,
Non, mais après, on voit qu'on l'étend quand même petit à petit, progressivement. On teste, en fait. C'est comme disait Napoléon, on s'engage, puis on voit. On voit les réactions. Bon, au début, on envoie des missiles anti-aériens, des missiles anti-chars, des choses un peu légères. Puis petit à petit, ça grossit. Ça grossit de plus en plus. Ça devient de plus en plus important. Là, on restreint l'emploi des armes pour ne pas frapper le sol de la Russie. Bon, problème, c'est que le sol de la Russie a avancé. Parce qu'on vous tapez.
Fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine, c'est ça qui est la limite, a priori, qui n'est pas atteignable.
Oui, alors, c'est vrai, mais je rappelle que pour les Russes, maintenant, la frontière russe, elle est sur le Dniepr.
Ouais.
Et or, déjà, les armes américaines tapent déjà au-delà du Dniepr, donc déjà sur le territoire russe.